Coucou mes amis, j'ai quelque chose à vous dire, c'est le dojo bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir
Drosgar.
Bonsoir, bienvenue sur Puissance Nintendo.
Je me casse. Bonsoir Galaxies.
Déjà,
bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Je suis pas rasé, on s'en fout, c'est de la
c'est
radio.
C'est un quota.
Bonsoir.
C'est un quota, le mec pas rasé. Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Et merci pour cette décapsulation de bon aloi.
Je vous en prie.
Il vous en prie. Alors ce soir, nous allons avoir notre fabuleuse rubrique l'instant le business merveilleux du jeu vidéo, qui est une nouvelle rubrique dans laquelle on va essayer de pas hurler de rire toutes les deux semaines. Ça va être très très compliqué, je dois vous avouer. Et s'il se fait de la merde dans son coin, c'est pas grave. Nous allons donc parler de Into the Breach, nous allons parler de... Alors moi j'ai noté... Tu peux te taire le coup de nouveau cochon d'Inde, s'il te plaît?
Il y a un nouveau cochon
d'Inde.
Ouais,
c'est beau, ouais. Mais c'est ça, ouais, la news de la semaine.
Bonsoir, problème technique 2.
Est-ce que tu l'appelles Julien Chiez?
Je pourrais l'appeler Julien Chiez, ce serait très drôle. On peut pas faire ça.
Apparemment, madame n'est pas d'accord.
Une coupe de con et on l'appelle Julien Chiez 2. Ah, c'est des filles. Julienne Chiez. Julie Chiez. Chiez.
Ça marche pas.
Bref, moi j'ai noté Boule du Dragon Combattant Z.
Nice.
Je ne sais pas, voilà. Tomono non deska. So many attitudes. Ça veut rien dire, mais c'est très très classe. Et on va parler un petit peu de... Alors j'ai noté Xeno 2 Torna, parce que j'avais pas envie de faire Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country, parce que ça me rappelle beaucoup Final Fantasy Crystal Chronicles. Voilà, c'est juste pas possible, à un moment faut essayer de se respecter.
D'ailleurs, bon, en parlant de titre de Xenoblade, je comprends toujours pas le Chronicles, et ce depuis 2011. Hein. C'était très bien Xenoblade tout court. Hein. Il est vrai.
Oui, mais bon. Après, mais c'est vrai que Xenoblade tout court, c'est... Bon. Pas trop compris non plus. Mais c'est peut-être parce que le premier raconte les chroniques de la guerre de... Enfin bref.
De la lame extraterrestre.
C'est... Oui. Merci, voilà. Cette émission, comme vous le savez, est sponsorisée par Reverso.
Et l'Académie française.
Mais nous allons commencer tout de suite par le point sur les consoles mini, puisque après la NES Mini, la Super NES Mini, nous avons eu très récemment la Neo Geo Mini, la Mega Drive Mini, qui n'est plus chez Ad Games, donc qui va a priori être moins pourri que d'habitude.
Et ce ça, reste une la...
ça reste une Mega Drive. Non, mais j'ai dit que le matériel allait peut-être être moins pourri. Après, les jeux, bon, ben voilà, ça reste une Mega Drive. Donc c'est quand même compliqué.
Ça vous fera mal aux oreilles.
Oui. Je sais pas comment ils ont fait pour se débrouiller pour que systématiquement la musique sur une Mega Drive ressemble à un concert de paix. Je trouve ça assez extraordinaire, personnellement. Mais voilà.
C'est du monde japonais.
Nous allons avoir la PlayStation Mini, dont on avait un petit peu déjà parlé. Est-ce que vous pensez que ça a été un peu trop loin déjà, alors que pour l'instant on en est pas grand chose? Est-ce que le truc a déjà été trop loin? Parce que la PlayStation Mini, je me dis que c'est là où il aurait fallu dire non.
Non, là, non, ça ira trop loin quand ils feront la Game Boy Mini Mini.
Merde, la réédition de la console
Game Boy
Mini.
Pocket Mini aussi.
Non, mais à un moment ils inventeront des consoles qui n'existent pas pour pouvoir te mettre toutes les ROM mais sur une seule machine. Donc ils feront la Super NES 64 Mini. Oui. Non, mais est-ce que vous pensez par exemple qu'on verra une Xbox Mini, puisque le mec avait l'air parti.
Personnellement, je pense qu'on peut. Enfin, après t'as le problème du prix, mais vu les capacités des émulateurs actuels, on peut aller jusqu'au 128 bits, puisque cet été il y a eu des grosses avancées dans l'émulation Xbox et Saturn. Mais après il y a le problème du prix.
Bah, y a le problème... Déjà, tu vois, la PlayStation Mini, je me dis qu'il y a un problème de prix. C'est-à-dire que Nintendo peut se permettre de mettre à peu près 32 mégas de mémoire flash dans une Super Nintendo Mini ou une NES Mini. Ça fait tout tourner. Il n'y aura jamais de problème.
Bah, c'est des CD, quoi. C'est ça le souci. Bah, et voilà. Puis, c'est, Sony a un deuxième problème, c'est qu'ils ont beaucoup de jeux tiers. Donc, il faut payer des royalties, sans doute.
Nintendo en a, mais c'est vrai. Alors, il y en avait pas mal sur la NES Mini. Parce que le choix est, sur la NES Mini, je trouve que le choix était quand même très large. Sur la Super NES Mini, ça s'est déjà beaucoup réduit. Il y a quelques tiers, mais nettement moins. Il y a un peu de Konami, un peu de Capcom.
On est passé de 30 jeux à 20 jeux aussi sur la Super NES Mini par rapport à la NES. Hein.
Tout à fait, mais en proportion, finalement, ce qu'ils ont enlevé, c'est les jeux tiers. Quoi. J'exagère à peine.
Bah, le truc, c'est au niveau... Enfin, les jeux tiers, il y en a quand même quelques-uns, parce qu'on a de mémoire, Final Fantasy 6 et
Street Fighter 2. Chrono Trigger, et... Street Fighter 2, Street Fighter 4, Street Fighter 4. Il n'y a pas Chrono Trigger ?
Non, il y a Megaman X.
Megaman X.
Il y a peut-être Castlevania.
Il y a Super Castlevania 4, ouais.
Il y a Ghosts and Goblins.
Ouais.
Voilà, on nous dit que la Xbox Mini fera la taille d'une PS2 normale. Je pense qu'effectivement, c'est à peu près.
La fat ou la plus petite ?
Alors, la vraie question étant, dans une Xbox Mini, est-ce que les mecs rajoutent du plomb pour que ça fasse le bon poids ?
C'est pas censé être plus léger.
Est-ce qu'ils vont se démerder pour la vendre aussi mal s'ils en font une au Japon?
Est-ce que au Japon ils feront une Duke, enfin ils feront la Duke en Europe et ils feront la Xbox, la manette Xbox S en Europe? Beaucoup trop de questions sur la Xbox Mini. Je pense.
Alors,
que...
et avant de se poser tout ça, faut quand même se dire que Nintendo n'a pas encore sorti la Virtual Boy Mini, qui reste à mon avis la console la plus importante de son catalogue.
Ah mais attends.
Bah, en fait, ils peuvent pas trop leur dire. Sinon, tu la mets sur un seul œil.
Oui, voilà, en fait, le problème c'est que si elle est trop petite, tu vas loucher à mort et ça risque de tuer le concept.
Non, mais tout ce que j'attends de toute façon, c'est une Wii U mini portable. Franchement, ce serait trop bien. Pour que tu
puisses détacher la manette, ce serait top.
Une Switch.
Une Switch, je connais pas, c'est quoi, c'est une...
Alors, non, mais faut pas oublier un détail, c'est que pour tous les jeux de la Wii mini, en fait, tu devras secouer la console parce que tu n'auras pas de sensor bar. Donc, pour faire la partie mouvement, faudra secouer la console et aller frapper ton petit frère.
Non mais c'est... Oui, enfin non, on va pas faire ça. Non mais en étant un peu sérieux, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre par exemple à une... Alors, l'état... Zergy a raison, il y a quand même un vrai point technique derrière. Je suis pas certain qu'on verra une N64 mini dans le sens où l'émulation N64 reste quelque chose de très compliqué même en 2018. L'émulation PlayStation, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé et par Sony et par la communauté, donc typiquement aller repiquer des bouts d'émulateurs PlayStation pour arriver à faire quelque chose, je pense que c'est faisable.
Bah, je sens que Sony émule déjà tous ses jeux PlayStation sur le catalogue PlayStation Portable, Vita, PS3 et peut-être même PS4 si je ne me trompe pas.
Alors PS3 c'est pas de l'émulation, hein. Ils ont une puce PlayStation dans les PS3, en tout cas les premières. Alors après je crois que c'est peut-être de l'émulation logicielle après, mais au départ c'était l'émulation matérielle, c'est-à-dire finalement
la PS1 est toujours émulée en matériel sur la PS3, mais oui. Mais la PS2 après je sais pas comment ils se démerdent.
Alors la PS2 ça a été de l'émulation matérielle, donc c'était
ça a pas duré longtemps.
C'était un PS2 on chip sur les toutes premières PS3.
Dans le barbecue là, ouais.
Voilà.
c'est une bonne description. D'ailleurs la PS3 mini, on attend le prix. Hein.
Non mais la PS3 mini ça arrivera pas tout de suite. La PlayStation mini
Mais justement, en parlant du prix, enfin Zergy abordait ce sujet-là tout à l'heure, faut voir aussi ce que le consommateur est prêt à mettre. Là, pour l'instant, le geek nostalgique se dit, bah, je vais en prendre nous deux, ça prendrait pas trop cher. On était sur du 100€ de base pour la Super NES, on l'a chopé à 80, et là,
non,
pareil
80,
pour la.
Elle a toujours été annoncée à 80.
Ah bon ?
Ouais. Ah, tout à fait.
J'ai vu super souvent 100€.
C'est fait niquer.
Les consoles 8 bits mini, elles sont à 60, les 16 bits, elles sont à 80, et les 32, elles sont à 100 balles.
Ah oui, d'accord.
Compris. C'est un peu ça.
Ouais, ça monte. Mais du coup, il faudra voir déjà...
En fait, je pense que 100 balles, c'est un peu le prix psychologique, quoi.
C'est ça, c'est que tu passes cette étape, et après, au-delà, j'ai peur que les gens se disent « Ouais, mais ça va pas cool de prendre des consoles, autant prendre une nouvelle sur laquelle on pourra acheter des jeux, même si c'est trop plus cher. »
Je pense que 100 balles, c'est le prix d'une PS3 d'occasion, quoi.
Surtout quand t'as la Xbox One S qui est bradée toutes les deux semaines.
Oui, 200 balles avec la Lamborghini et la compagnie. Plus des jeux.
C'est quand ils te filent tes allocs, quoi. T'as une Xbox One X offert, quoi. Faut pas déconner.
Oui, donc, non, mais c'est parce que Microsoft est. Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, ça n'a aucun rapport, mais la compagnie qui dépense le plus de temps publicitaire sur la télé américaine depuis 3 ou 4 mois, c'est Microsoft.
Ah ouais, pour faire quoi?
Ah, aux US, ça, hein. D'accord.
Juste pour la Xbox
Non, juste pour la Xbox.
D'accord. Pour venir à cette histoire
c'est
du
flippant.
Prix. Pour revenir à cette histoire du prix, il y a une donnée qui est intéressante aussi, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas atteint le seuil des 100€. Et en fait, je pense que c'est le seuil maximal pour que le côté très achat compulsif pour le papa trentenaire-quarantenaire fonctionne. À partir
ouais,
de 100€, ça commence à dire 100€, il y a trois chiffres, ça commence à devenir un budget dans la tête des gens. Alors que 60€, ben, quand tu as envie de te revivre un petit peu ton enfance, c'est assez facile.
60 balles, c'est le prix d'un jour.
Oui, c'est ça. Mais tu te dis, ah, je vais revivre mon enfant, je vais jouer avec mon gosse, tu vois, ça c'est cool. 100€ pour des jeux PlayStation qui, à mon avis, en plus, n'auront pas très bien veillé parce que c'est le début de la 3D.
Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les contrôles tank dans Resident Evil, ça marche très bien. Dans Metal Gear, ça marche très bien. Dans Tomb Raider, ça marche très bien. Faut arrêter maintenant.
D'ailleurs, j'espère que dans Metal Gear, on aura le droit à la VF d'époque. Hein.
Oh mon Dieu.
Ah, je ne pense pas.
Fais-moi sentir vivant.
Tu veux qu'on se tire l'oreille? Mais en fait, c'est surtout ça qui va être important, c'est est-ce que les gens seront prêts à mettre 100 euros pour certes des titres qui les auront sûrement marqués dans leur enfance, mais qui au final à l'heure actuelle seront vraiment pas très beaux. Ce sera 100 balles.
Et pas très maniable, hein.
Et pas très maniable.
Sentir,
avec des caméras.
Et avec des manettes, même pas DualShock.
Alors, oui, alors non, alors apparemment, ils ont une combine avec Nintendo, c'est-à-dire que dès que Nintendo sortira la N64 Mini, Sony sort la PS Mini, mais avec la version stick analogique.
Voilà, il y a le patch.
C'est ça. c'est une question de respect, si tu veux, entre deux constructeurs, de se dire, ah oui, tiens, d'accord, on va faire ça. Mais voilà.
On va revivre dans cette guerre des consoles. Mais c'est, alors, avant qu'on me dise, ouais, t'es un fanboy et tout, faut pas, enfin, je pense la même chose pour la 64. Hein. 100 balles pour la Nintendo 64, j'adore Mario 64, j'adore Zelda Majora's Mask, j'adore Paper Mario. Je suis pas prêt à remettre 100 balles pour y rejouer.
Les jeux, ils ont vieilli aussi sur 64. Hein.
Ah, après, voilà. Il faut pas oublier que vous avez sûrement les consoles, etc. C'est pas le cas forcément du père qui a 45 ans et oui, qui a un peu oublié.
Je les ai plus les consoles. Hein. Moi, je les ai plus les consoles.
Non, mais attends, Drosgar, ça change rien. Je pense qu'effectivement, 100 balles, c'est un peu le seuil de la. C'est, pour moi, c'est le seuil de l'achat. Le seuil psychologique de l'achat compulsif. C'est-à-dire qu'au-dessus de 100 balles, l'achat compulsif, c'est plus compliqué. 99,99, t'es sur un prix psychologique où tu peux te dire, ok, ça coûte moins de 100 balles. Noël, machin, je sais pas quoi, ça marche.
Je pense qu'au-delà du trip rétro, t'as vraiment un côté, le prix, le tarif est abordable, t'as quand même 30 jeux, donc t'en as pour ton argent dans ta tête, pour 30 jeux ou 20 jeux d'ailleurs, ça dépend de la console, et c'est un peu un petit kiff. Mais le fait que ça coûte pas très cher, à mon avis, ça joue énormément, et les 100 balles pour une PlayStation Mini ou peut-être une 64 Mini, est-ce que ce sera aussi efficace pour pousser à l'achat, quoi?
Bah, surtout que. Oui, alors, on nous dit quand tu vois le prix du Majora's Mask, 100 balles pour une N64, c'est rentable. Il y a un autre facteur aussi qu'on oublie très souvent.
Majora's Mask est ressorti sur 3DS, on le rappelle.
Oui, Majora's Mask est sorti sur 3DS.
Mais il y a l'émulation, quoi.
Non, mais il y a quand même un facteur qu'on oublie très souvent, c'est que il y a quelques années, rebrancher ta N64 sur ta télé, c'était encore faisable. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. T'as quelques télé 4K où il n'y a plus du tout de connectique analogique. C'est-à-dire que non seulement tu es dans l'impossibilité physique de rebrancher ta console ancienne sur ta télé actuelle, mais en plus, le traitement des signaux analogiques par les télés un peu récentes est de toute façon dégueulasse. Et je veux dire, c'est des coups à se foutre un coup au moral. L'avantage des consoles de ce type-là, PS Mini, N64 Mini, ainsi de suite, c'est que globalement, vous avez une connectique HDMI, donc c'est vraiment le truc plug and play 100%, comme à l'époque sur du CRT, sauf que voilà, aujourd'hui on peut plus vraiment faire du plug and play sur des vieilles consoles, et ça va être, je pense, de pire en pire dans les années à venir, donc il y a peut-être quand même un marché pour ça, malgré tout. Alors après, effectivement, le prix va jouer. Est-ce que les gens sont prêts à mettre 100 balles pour rebrancher une PlayStation sur leur télé? C'est peut-être pas si évident que ça. Après, il y a toujours l'objet, je rappelle, parce qu'effectivement, aujourd'hui, émuler ça, ou même, enfin, je veux dire, une PS2, ça se branche beaucoup plus facilement sur une télé HD, parce qu'il y a des connectiques un tout petit peu plus modernes. Une PS3, bah, ça coûte à peu près rien dans n'importe quel magasin d'occasion, et puis ça joue les jeux PS1, et ça peut se connecter sur le PSN pour en télécharger d'autres. Bon, c'est pas les moyens qui manquent, et à mon avis, si t'es vraiment motivé, pour moins de 100 balles, je pense que tu dois pouvoir faire à peu près ce que fait la PS Mini, sans problème.
Et avec plus de jeux possibles.
Et avec peut-être plus de jeux possibles derrière. Donc je sais pas trop. Est-ce que vous voyez débarquer, parce que donc, techniquement la PlayStation ça va déjà poser un problème de stockage. Une N64, je vous dis, c'est pas évident. Est-ce que vous voyez débarquer des trucs genre Saturn Mini, sachant qu'il, bon, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de marché pour ça en dehors du Japon.
Ouais, franchement la Saturn c'est pas une console qui a marché, c'est une console qui a dû réémuler aussi, donc.
Donc mal parti. Xbox Mini, je plaisantais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que c'est un truc que Microsoft pourrait faire?
Et il y a un gros travail de Microsoft sur la rétrocompatibilité de ses consoles. Donc je sais pas si eux ils vont vouloir le faire, sachant que en achetant une Xbox One tu peux quand même y accéder à tous les jeux, mais une partie quoi.
T'as aujourd'hui une grosse cinquantaine de jeux je crois Xbox qui sont compatibles Xbox One, si je me rappelle bien.
Ouais c'est ça, enfin t'as. Bah, a priori,
ouais ça augmente constamment.
C'est les jeux Xbox qui étaient compatibles Xbox 360 dans un premier temps. Mais je pense que déjà il y a une sélection qui est plutôt honnête de ce côté-là, sans compter les remasters type Halo. Mais est-ce que Microsoft sortir ça, je les vois pas trop en fait à l'heure actuelle. Surtout que la Xbox c'est pas une console mythique comme peut être la PlayStation, comme peut être la Neo Geo, la Super Nintendo.
Alors, ça dépend où tu demandes. Aux États-Unis, c'est une console mythique la Xbox. En Europe, au Japon, c'est anecdotique. Au Japon, ils savent même pas que ça existait. Et en Europe, c'est assez anecdotique. Mais aux États-Unis, c'est une console qui est assez mythique. C'est la console américaine. C'est, enfin voilà, il y a tout un lore qui s'est construit autour de ça.
C'est vrai. Mais elle a peut-être pas. Je trouve qu'elle a. Enfin, c'est vrai que mon point de vue est très français, mais je trouve pas qu'elle a l'aura des autres en fait, des autres qui ont été cités. Ça me paraît compliqué pour l'Xbox. La PlayStation 2 me paraît plus probable parce que c'est une console qui est très appréciée et dont les joueurs qui étaient ados à l'époque vont bientôt avoir 30 ans, donc l'âge cible de ce genre de console. Et peut-être la GameCube aussi, mais c'est pas une console que Nintendo aime beaucoup.
C'est la limite.
Ça va commencer à devenir techniquement à ses limites.
Mais en fait, la PlayStation 2, la Xbox et la GameCube, ça reste quand même les consoles où la 3D est encore regardable à l'heure actuelle. Je dis pas que c'est fantastique, mais pour moi,
c'est ultra correct. En réalité, correctement upscalé, la GameCube, ça passe crème. Hein.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des consoles qui ont plus de chances d'attirer des gens parce que les jeux sont encore suffisamment modernes visuellement que la 64 ou la PlayStation. Ou putain, c'est poussif quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que ça. On va passer à notre second sujet et j'invite Antix à faire le jingle à la bouche puisque je n'ai pas eu le temps de le préparer.
Alors du coup, comme voilà, on va parler de DBZ, tu nous chantes le générique par Bernard Minet.
Oui,
ah bah ça je peux
le faire. Ah ben ça, on va le faire tout à l'heure. Mais puis en plus, c'est bien parce que voilà. Donc l'instant business merveilleux du jeu vidéo. Donc on va avoir trois mini sujets dans ce sujet. Première chose, Electronic Arts.
Fric égale pognon. Fric égale fric.
Donc,
le mantra de cette section, hein, n'oublions pas.
Tout à fait. Electronic Arts est obligé maintenant de révéler les pourcentages de drop sur les cartes de FIFA Ultimate Team et on voit l'horreur se dessiner puisque la plupart des. Enfin, il y a beaucoup de packs qui ont moins de 1% de chance et il y a bien écrit sur l'écran moins de 1% de chance d'avoir telle ou telle carte.
Et moi qui me plains quand il n'y a que 3% pour avoir des 5 étoiles dans Fire Emblem Heroes. Non
mais c'est ça. Donc il y a beaucoup de trucs qui sont à 5% et tout ça et machin. Donc c'était tes taux de drop de 1 chance sur 20 pour que tu achètes un pack que tu tombes sur Cristiano Ronaldo pas violeur. oui c'est pute mais je suis content. Et puis vous avez le fameux certains packs où il y a écrit vraiment moins de 1%.
Légendaire.
Oh, alors là, c'est abusé.
J'ai demandé quand même un peu à mes potes footeux qui aiment ça et tout. Ils m'ont dit ouais, non, mais franchement, c'est un scandale, putain, c'est dégueulasse. Et du coup, pour répondre à la question que t'allais poser, Mortal, c'est vrai que ça va les freiner. Et d'ailleurs, il y a Bruce Granek, donc pour ceux qui savent pas, c'est triple champion FIFA Football et champion du monde sur PES. Alors bon, ça m'intéresse pas spécialement, mais bon, qui a considéré que c'était de la grosse carotte.
Mais attends, le problème, c'est que ça a toujours été de la grosse carotte.
Oui, mais maintenant qu'on a les chiffres, on s'en rend compte.
Bah, parce que franchement, moi j'ai plein de potes qui s'en servent. J'en ai un qui a investi vachement. Il achète son FIFA tous les ans. Et clairement, j'ai pas encore eu le temps de lui reparler. Mais je pense que ça va le freiner. Hein.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que le truc va se tarir, quoi, finalement? C'est-à-dire qu'on s'est dit. Ça va ralentir le phénomène. C'est-à-dire que le fait que les gens se disent, mais merde, mais en fait, c'est une putain de grosse arnaque, c'est la machine à sous. Voilà. Ça... La législation force Electronic Arts à l'afficher clairement en disant là, les pourcentages de chance c'est 5% pour avoir telle carte. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui vont se dire mais merde, c'est la grosse arnaque, j'arrête et du coup, je sais pas, le chiffre d'affaires plonge, Electronic Arts fait faillite.
C'est affiché où?
C'est affiché dans le jeu.
Dans le jeu,
oui, mais où dans le jeu?
Dans le mode FIFA Ultimate Team, quand tu vas aller regarder les cartes que tu as envie d'avoir, les cartes qui tombent, il y a écrit pourcentage de drop moins de X%.
Donc tu es obligé de le voir.
Oui, c'est quand même affiché assez clairement. C'est-à-dire qu'ils ont pas le. Je suis pas certain si c'est un peu comme le RGPD où il faut que ce soit au consentement éclairé machin, mais j'ai l'impression qu'ils ont été obligés de jouer franc jeu et de l'afficher assez clairement. Et pas que ce soit trompeur, même comme affichage. J'ai l'impression que les mecs sont un peu obligés de faire ça. Est-ce que vous pensez que ça peut tuer une partie de leur business?
Ça va ralentir.
S'il y a plein de gros joueurs qui se disent finalement non.
Bah, en fait, surtout quand tu connais le taux de pourcentage. En tout cas, moi, ça m'a fait l'effet.
Ah, le taux de pourcentage, on est dans de la haute volée économique.
le fameux taux d'alcoolémie.
Exactement. 0,5 grammes d'avoir Ronaldo. En fait, quand tu connais, ça te freine aussi à dépenser. Enfin, moi, je sais que sur Fire Emblem Heroes, pour reprendre cet exemple, il y avait des fois, il y avait vraiment des personnages qui m'intéressaient et je voulais avoir, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir faire tourner la machine. Et à un moment, je me suis dit, ah, attends, j'aurais bien dépensé. Et en fait, bon, j'ai vu les prix. Et je me suis dit, ouais, mais en même temps, genre, 3% d'avoir un personnage, c'est même pas sûr que je celui-là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 balles pour avoir genre 5 chances de tirer, tu vois?
Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez faible.
En fait, quand t'as des chiffres pour comparer ce que tu payes et ce que tu risques d'avoir, je pense que ouais, ça freine des gens qui ont pas forcément un budget très élevé à consacrer à ce genre de choses, qui préféraient juste être sûr de pouvoir bouffer jusqu'à la fin du mois que d'avoir Ronaldo, le violeur des Carpates, en personnage jouable.
Mais là, en fait, dès que tu inclus le facteur raison dans l'équation, forcément, ça va te freiner si t'as pas forcément le budget pour permettre ce genre de petit écart, justement.
On parle quand même d'un public qui achète le même jeu toutes les années depuis 10 ans.
Oui, mais ça se trouve, c'est le seul jeu qu'ils achètent.
Plus de 20 ans.
Je rappelle quand même que Mortal a 200 heures sur FIFA 18, donc...
Et vive !
Mais moi, ça me dérange pas, parce que si tu veux, le dernier que j'avais acheté, c'était FIFA 98. Donc je me dis 200 heures,
ah ouais, quand il a été pané, ouais.
Je peux assumer.
Il y a un de mes potes, justement, qui joue pas mal à FIFA, qui nous écoute, et qui se pose, justement, une question un peu plus précise, et qui porte un peu plus sur l'éthique encore, sur, justement, le fait que beaucoup de streamers tombent sur beaucoup de gros joueurs en ouvrant ce genre de pack, et du coup, il y a pas mal de scandales, apparemment, qui sortent sur de potentiels packs truqués pour ce genre de streamers, pour, justement, donner envie aux joueurs d'acheter ce genre de pack.
Si et si c'est le cas, vrai, c'est
franchement,
extrêmement grave.
Ouais, ça serait super chaud.
Est-ce que tu te souviens du fameux brevet d'Activision, hein.
Le fameux brevet d'Activision.
Est-ce que tu pourrais pas te dire que effectivement il y a des
est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est ce brevet pour les gens
qui s'il vous plaît, pour les gens qui n'ont pas forcément suivi.
Alors, le brevet d'Activision.
Le RTF.
Oui, évidemment, toujours. Alors, il y a quelques mois de cela a été trouvé un brevet industriel présentant la chose suivante. Afin de favoriser les achats grâce aux micro-transactions prévues dans le jeu, l'algorithme de matchmaking, qui est beaucoup mieux que celui de Nintendo, mais ça c'était pas très dur, proposait de placer le joueur qui n'avait pas encore payé contre des joueurs qui avaient payé avec un meilleur équipement. Et surtout, quand ils mouraient, leur montrer. Oui, tu vois, lui, il a des bottes en or, c'est trop de la balle, achète-les.
C'était si beau comme projet.
Ah, t'as vu. Le joueur, alléché par l'idée d'avoir des bottes en or de grande qualité, va ainsi utiliser la carte bleue de papa ou de maman, ou la sienne, sa carte Cléo, afin de se payer une petite paire de bottes dorées virtuelles, ou alors qu'il se pourrait s'acheter de vraies chaussures.
Oui, mais c'est un brevet qui manipulait le matchmaking en fonction du pognon que t'avais foutu dans le jeu pour favoriser les microtransactions, basiquement.
Voilà, et en fait, à la fin, une des finalités, c'est quand t'as payé, il te met contre des joueurs qui, eux, sont moins forts, n'ont pas payé, afin de te dire « t'as bien fait de payer, mec, tu devrais recommencer ».
C'est un free-to-pay, donc.
Ce qu'on appelle un pay-to-win, mais quand le jeu est payant.
Mais là, t'es dans l'extrême, quand même, un petit peu.
Pour le streaming, c'est pas impossible, honnêtement, les packs truqués.
Putain, mais si c'est ça, c'est grave.
Il est merveilleux, mais le monde du jeu.
Par contre, il y a aussi un biais du fait que ça soit en stream, que la personne en ouvre généralement des dizaines et des dizaines, ce que les gens, la plupart des gens font pas. Et donc, du coup, évidemment,
statistiquement, il va forcément tomber sur le truc, quoi.
Exactement. Et on se souvient plus des gros joueurs que de Michel Pecno, carte commune, voilà.
Mais après, si c'est
très content de voir que Galaxy, ça a été acheté par EA, voilà, tout le monde le sait aujourd'hui. Formidable. Voilà, merci, bravo la France.
Pour moi, ceci a pas tort. Hein.
Je le vois rien qu'avec tout con, The Binding of Isaac. Quand tu regardes des streams de The Binding of Isaac, les mecs ont tout le temps des équipements pétés. Et tu te dis, c'est juste moi qui ai pas de chance. Bah non, parce que les mecs, ils font quoi? Ils font peut-être 2-3 heures de stream. Ils en font combien des parties?
Quelques dizaines,
par rapport à des parties normales, où t'as un temps de jeu normal. Et pour faire le lien avec Ultimate Team, où t'as un achat normal, c'est-à-dire tu vas pas acheter, je dis un truc à la con parce que je connais pas vraiment, mais tu vas pas acheter 20 packs, alors que le streamer, lui, oui, parce que il a besoin de faire durer
il a la Twitch money,
la dégustation de cartes Pokémon, donc
la dégustation de cartes Pokémon.
J'ai raté une étape là, non?
Il s'est passé un truc,
connais pas la carte Pokémon à la sauce barbecue?
Putain, c'est trop bien. Une carte Pokémon que tu peux tremper dans un petit peu de tzatziki, franchement, c'est nickel.
Coucou. Non mais voilà. Donc il a besoin de faire durer son opening, donc il va acheter 20-30 packs, alors que nous, pauvres pecno, pauvres communs des mortels, on va en acheter deux. Et donc du coup on va dire c'est truqué machin, alors que bah
mais
peut-être
attends,
pas.
Je dis si pas que... ça se trouve.
Je dis si pas que c'est faux. Hein. Ça se trouve, il c'est totalement possible.
Ce qui est
vrai,
c'est que tu te mouilles pas du coup.
Bah, je donne un élément de réponse. J'essaye de donner un.
C'est bon, journalisme total.
C'est Léo, c'est enculé.
Bon, mais non, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est effectivement le mec qui va ouvrir 30 packs d'un coup. Il a effectivement plus de chance. Et ce qu'on va retenir, c'est surtout ce qu'il a ouvert d'exceptionnel. Alors qu'en réalité, il a peut-être ouvert 29 packs merdiques avant. Quoi.
Alors, d'autant que dans certains jeux de ce type, notamment du côté du Japon, tu as des
packs avec des tentacules.
Ah ouais, aussi. C'est tentaculaire comme offre. En fait, t'as des algorithmes qui font que plus tu ouvres de paquets et plus tu as chance de tomber sur les trucs rares qu'il y a dedans.
Ah oui, donc, mais ça, c'est...
On t'incite à payer plus.
Oui, mais ça, est-ce que c'est un algorithme de correction comme dans Hearthstone ? Je sais que dans Hearthstone, je crois que c'est 0,1% de chance de légendaire. Et plus tu ouvres de packs sans légendaire, plus ta chance augmente. Ouais, pour que tu pour
sur,
que
Fire Emblem Heroes
tu puisses pas en avoir, jamais en avoir quoi.
Dans Fire Emblem Heroes, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que tous les 5 invocations t'augmentent de 0,25% de chance d'avoir ton mec super rare quoi.
Est-ce que c'est un algorithme de correction ou
va
vraiment
un algorithme à la con, genre un spécialiste des statistiques pour arriver à jouer à
ce jeu. Ah non, mais c'était l'instant chiffre hein. On aurait dû mettre le jingle du chiffre des lettres.
Mais
on l'a fait.
Justement, mon pote fouteux là qui nous écoute me dit que de toute façon, il y a souvent trouvé des affaires un peu louches, genre de choses comme le script qui pour rééquilibrer les matchs en ligne.
Mais attends, mais c'est pas eux il y a quelques années.
Visiblement, il y en a un.
Dans les années 2000, qui avait payé un hôtel à Las Vegas avec des prostituées à des journalistes.
Alors, je vois
alors,
pas où est le problème.
Sur Julien Chiez,
il y avait
deux streams.
Non, mais attendez,
il y avait
ouais, voilà, comme le fait
Julien
avec transition.
Ah non, mais là, il m'a fait un boulevard pour la transition.
Non, mais il y avait une sale histoire comme ça, je crois que c'était hier. Et en fait,
non, mais c'est tous les ans qu'il y a des sales histoires.
C'est genre le truc qui se dit pas, tu vois. Non, mais apparemment aujourd'hui, c'est plus possible parce que ça sortirait, mais il y a, je crois, une quinzaine d'années, on m'avait raconté ça, qu'il y avait une sale histoire d'hôtel à Las Vegas avec des gens, on sait pas trop ce qu'ils ont fait pendant la nuit.
Est-ce
mais
que tu confonds pas avec Benzema?
Il y a quelques années, je suis désolé hein, de ramener ça comme ça, il y a quelques années, dans le monde du business et des affaires et machin, t'avais des séminaires avec chambre garnie, quoi. Et c'était une pratique extrêmement courante chez certains fournisseurs.
T'es sûr que c'est il y a encore quelques années ?
C'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué apparemment depuis une petite dizaine d'années. Mais vraiment, c'est pas... c'est beaucoup plus compliqué. Les mecs ont l'air de... Ils marchent vraiment sur des œufs parce que c'est le genre de truc, si effectivement ça sort, t'es très mal. Et aujourd'hui, ça peut sortir très vite. Et pas forcément d'où on imagine. Ceci n'était pas une métaphore. Donc, Julien Chies, prof de streaming, voilà.
Mais il est, alors, il est vraiment prof ou il est intervenant?
Alors,
attends, parce que moi, j'ai vu qu'il c'était
ah,
genre
non,
un intervenant,
streaming,
je sais pas quoi. Attention, c'est prof de streaming, incroyable.
Laissez-moi introduire ce sujet.
J'ai
le script sous les yeux.
On te laisse introduire.
Et donc, connaissez-vous la Gaming Business School? Cette
non.
petite école
mais non,
de antiques. Droit d'entrée est de 7800 euros par an.
Ah oui, une école de commerce, j'adore.
Bien. Il y en a un qui a tout suivi. Et donc, dans cette petite école de management spécialisée gaming, non pas jeux vidéo, hein, parce que nous ne sommes pas en France, je vous le rappelle, il y a des sections...
D'assaut.
Diverses sections, donc une section... Des sections d'assaut. Putain, il m'a tué. Il y a diverses sections, dont le fameux Gaming Guru, qui est un service de coaching pour devenir meilleur aux jeux vidéo, un service e-sport et un service management. Donc apparemment l'école a dû ouvrir il n'y a pas très longtemps et on découvre en allant sur Twitter qu'un des premiers intervenants n'est autre notre cher ami Julien Chiez qui va mener trois conférences
qui les écoute hein.
sur la Netflixisation du jeu vidéo, je sais pas comment on dit ça.
Non vraiment.
Le jeu vidéo en France et enfin YouTube, fantasme et réalité.
Oui. La darsouisation de YouTube.
Alors, ce qui ressemble beaucoup à un titre de reportage capital. Alors, je
tiens à nous allons marquer une première pause musicale.
Il faut qu'on aille vomir là.
qu'on aille faire autre chose. Nous allons marquer une première pause musicale. Nous
ce trailer
un petit morceau d'un album qui s'appelle Zelda and Chill, qui est fait par Mickaël de Game Shops. je mettrai le... Voilà. C'est du lofi. Je sais pas si vous savez ce que c'est que du lofi. C'est une espèce de jazz moderne, machin, hip-hop, bidule.
C'est quand t'as pas de thune pour avoir des sons de bonne qualité.
Tout à fait. C'est exactement ça. Le principe, c'est d'avoir du son qui est un peu dégueulasse. L'idée, c'est que le son un petit peu dégueulasse et cette espèce de rythme un peu, je te dis, jazz, hip-hop, très très calme et tout ça, ça aide en théorie à se concentrer. C'est le principe du truc. Il y a des gens chez qui ça marche très bien. Moi, je sais que sur moi, ça marche très bien.
Moi, ça me file la chiasse.
Voilà, il y a des gens chez qui ça marche pas du tout et qui chopent donc la dégueule. Parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc on va s'écouter un petit morceau de cet album par Mikkel et Game Chops, Zelda and Chill. C'est Ballad of the Goddess. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
C'était pas
bien,
ça.
Tout le monde est bien synchrone.
Et après, on me dit que oui, j'ai foiré la sortie.
Professionnel et agent de la paix avant tout. nous allons donc laisser la parole à Antix, qui va nous parler de Dans la Brèche.
Dans la Brèche, et oui.
Un vrai morceau de Kaiju avec du tactical dedans.
Ah, surtout un bon gros morceau de mecha. Alors si vous avez vu ce magnifique film qui s'appelle Pacific Rim,
oui,
voilà, et bien imaginez qu'un mec a pris le scénario, a pas eu la licence et il a fait un jeu de tactique avec. Donc il va falloir défendre la Terre qui est réduite à 4 îles. L'île avec de la forêt, l'île avec du désert, l'île avec de la glace et l'île avec de la pollution.
Bah, dis donc, c'est original.
Celle-là on n'a pas envie de la sauver. Je peux crever. Et il va falloir défendre contre quoi ? Eh bien, des insectes géants nommés les Verks, un truc comme ça, j'ai oublié le nom, qui décident, ben, eux, d'anéantir l'humanité. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils attaquent des villes qui permettent à le système de défense planétaire qui s'appelle la Grid de continuer à fonctionner dans le but tout simplement de détruire la Grid et de pouvoir envahir la planète. Et pour défendre la planète, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des mechas avec des pilotes qui voyagent dans les dimensions afin de pouvoir sauver la Terre, ce qui justifie le côté roguelike du titre, puisque oui, c'est un roguelike.
Oh non.
Avec une génération procédurale des niveaux.
Oh non.
Et des mechas qu'il faut diriger pour tuer des insectes, ce qui est vachement drôle.
Non, ça c'est bien par contre.
Ça c'est la partie cool. Et du coup, donc, tout le jeu se fait sur des petites cartes de 64 cases.
Donc 8 par 8, c'est ça ?
Du 8 par 8. En vue isométrique, mais en soi, ça change pas grand-chose en termes de lisibilité. Le joueur contrôle jamais une équipe de 3 mechas qui parfois peut être aidée sur son émission par des PNJ qui seront là juste le temps de la mission pour leur filer un coup de main, que ce soit pour un tank qui va pouvoir tirer sur les ennemis ou par exemple une machine de terraformer de terraforming qui va remplacer toutes les zones vertes en désert et tuer tout ce qu'il y a dessus, y compris les ennemis, ce qui est plutôt pratique. Et du coup, le but, c'est d'anéantir donc les vagues d'ennemis. Et surtout, c'est pas un jeu un peu comme dans Fire Emblem où souvent c'est tuer tous les mecs de la carte. En fait, c'est vraiment un jeu défensif, dans le sens où le but est moins de faire survivre ses unités que d'empêcher l'ennemi d'attaquer les différentes villes. Que si jamais ils le font, bah, on réduit les points de grid. Et quand on n'a plus de points de grid, on a game over.
Ok. J'avais pas suivi le coup du grid, mais en fait, c'est une espèce de c'est des points d'action, en fait. En
gros. Alors, la grid, c'est plus des points de vie globaux. Donc, chaque méca a ses propres points de vie. Mais si jamais il tombe à zéro, la machine ne fonctionne plus et le pilote qui est à l'intérieur meurt, dans le sens où, et si on n'a plus de pilote, et ben c'est une IA qui va le remplacer. Mais en plus, à côté de ça, tu as une barre de générale, donc je crois qui va jusqu'à 8 maximum, qui est donc cette fameuse barre de grid. Et qui, à chaque fois qu'un des insectes, enfin, à chaque fois qu'une des villes, parce qu'il y a du friendly fire aussi, donc on peut attaquer ses propres unités ou infrastructures, est touchée, chaque fois qu'une infrastructure est touchée, cette barre va baisser. Et dès qu'elle arrive à zéro, c'est game over.
Donc du coup, on crève beaucoup ou pas?
Ça reste un roguelike, et surtout les mecs ont pensé les parties pour qu'elles dépassent jamais vraiment les 2 heures.
Sympa.
Ça
commence à faire long, 2 heures quand même. Ouais. Heureusement. Non, je sais pas, c'est rapide ou parce que 2 heures c'est quand même pas mal.
Par rapport à Faster Than Light, qui est leur précédent jeu, je trouve que c'est quand même plus court. Et en fait, 2 heures c'est si tu fais les 4 îles. À partir du moment où t'as fait 2 îles, tu peux accéder directement à la mission finale.
Ah d'accord. Donc c'est plus du bonus ou en tout cas de la.
Ah, c'est un challenge, supplémentaire. Hein.
D'accord.
C'est un challenge supplémentaire qui peut en avoir plus d'upgrades, mais en face les mecs sont aussi beaucoup plus forts au fur et à mesure. Vu qu'il y a des ennemis qui, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu découvres qu'il y a des ennemis qui sont plus forts que les autres, qui ont plus de points de vie, qui font plus de dégâts, qui attaquent sur plusieurs cases en même temps. Et en fait, il faut réussir à gérer tous ces paramètres. Et là où le jeu est très intéressant, en fait, c'est que ça va être un jeu de réaction. À chaque début de tour, tu vas voir l'ennemi bouger et dire « je vais attaquer ses attaques ». Merci Zergy.
Merci Zergy.
Merci Zergy.
C'est pas moi.
Ah merde, tu fous toi de ma gueule, qui c'est qui a mis ça?
C'est pas grave.
Ouais. Mecton, puni.
On enchaîne. Donc l'ennemi va bouger sur la case et dire « voilà, moi je vais attaquer ces endroits-là ». Et tu vas pouvoir du coup, toi, donc ça va être à ton tour de jouer. Enfin, il va pas attaquer tout de suite, tu vas juste savoir ce qu'ils vont attaquer et dans quel ordre. Et après, ça va être à toi de jouer. Et ton but, ça va être d'empêcher, enfin la plupart du temps, d'essayer de tuer un maximum de mecs, et de manière générale, de limiter au maximum la casse, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le moins d'infrastructures qui soient bloquées. Tu peux aussi, y a aussi des renforts réguliers qui arrivent depuis le sol, donc ces zones sont indiquées, tu peux poser des mechas dessus, ou même des ennemis dessus pour empêcher les gars de sortir, en échange d'un point de vie.
Ah oui, donc en fait, ton objectif, c'est de sauver les infrastructures sur la carte, c'est pas forcément de péter la gueule à tous les mecs, enfin si, péter la gueule à tous les mecs d'en face par construction, mais l'objectif c'est essentiellement de protéger les infrastructures qui sont sur la carte.
C'est ça. Et après, évidemment, ça veut dire aussi être capable de minimiser un minimum le nombre d'ennemis qu'il y a sur l'écran, vu que tu n'as que 3 mechas, même si tu peux faire des dégâts par ricochet, en envoyant les ennemis sur les autres, ou en les bougeant de façon à ce qu'ils s'attaquent les uns les autres. Il y a toute une équipe basée là-dessus, et elle est absolument géniale à jouer. Dès qu'il commence à y avoir 5-6 insectes, c'est très dur à gérer et généralement il y aura des pertes. Donc il y a vraiment un côté aussi, savoir aussi parfois peut-être laisser un ennemi de côté pour qu'il soit tué par un de ses potes et donc t'as pas à le gérer. Mais de manière générale, faire en sorte qu'on ait le moins possible à l'écran parce que plus on a et plus t'as de chances de perdre.
D'accord, donc en fait, il y a à la fois du crowd control, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut à la fois essayer de se débrouiller pour essayer d'en éliminer le plus possible ou les plus puissants, de sorte à ce que ça parte pas trop en cahuète, et en même temps protéger les infrastructures de la carte, parce que c'est quand même ça qui fait que tu vas mourir ou pas.
C'est ça.
Ça a l'air costaud, non, comme...
Ça a l'air costaud, dit comme ça, mais en fait, comme les cartes sont très petites, et qu'au final, tes robots ont... une ou deux capacités qui sont globalement assez limpides et qui sont faites pour fonctionner entre elles, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ouais, effectivement, il y a des moments où il faut mieux réfléchir pendant 1 ou 2 minutes avant de se lancer. Pas faire de bêtises. Le jeu, évidemment, est pas non plus très simple dès qu'on passe la difficulté facile. Hein, c'est clairement possible de faire un très bon truc et sur une mission de perdre absolument tout. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Il suffit qu'on n'ait pas géré correctement quelque chose ou...
C'est super punitif ou pas? Enfin, c'est-à-dire que tu peux vraiment te retrouver passer de 100 à 0 en 2 tours parce que t'as loupé un truc ou c'est un petit peu plus forgiving?
C'est un minimum permissif dans le sens où déjà quand les mecs attaquent t'as un petit pourcentage de chance que l'attaque n'inflige pas de dégâts à la zone de grid. De manière générale, tu choisis aussi les missions que tu veux faire, et celles qui sont plus dures te sont signalées, celles qui sont plus simples te sont aussi signalées, donc tu sais déjà en termes de difficulté dans quoi tu t'engages à chaque fois que tu rentres dans une mission. Après ça reste un roguelite, c'est-à-dire que si tu perds, tu peux recommencer immédiatement. Au final tu vas perdre une demi-heure de jeu, une heure de jeu là dans la majorité des cas, et surtout tu vas pouvoir rapatrier un des pilotes que t'as, et donc avec tout son niveau d'expérience, et avoir des pilotes avec des niveaux d'expérience c'est intéressant parce qu'ils vont avoir des bonus type le mecha a plus de points de vie ou une case de mouvement en plus, Et dans un jeu où passer de 3 à 4, ça permet de contourner un ennemi, bah en vrai, c'est vachement bien ce genre de bonus. C'était le début du jeu.
Ah alors, ouais, donc tu perds pas toute ta progression. Excuse-moi.
Bah, c'est le principe d'un roguelite. Tu perds. Tu continues. Enfin, j'ai joué récemment à Flint Hook, qui. Mecton d'ailleurs. Mm-hmm. Je te fais des bisous.
On va commencer, ouais.
Qui a ce même principe-là. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais dans le jeu, en fait, tout ce que tu ramasses comme or, comme bonus, comme quoi que ce soit, sert à faire de l'XP. XP qui va te permettre de monter en niveau et donc de débloquer des compétences. Donc, même une run ratée dans laquelle finalement t'as pas été très loin, tu t'es banané sur la troisième carte, ben globalement ça te permet d'aller récupérer un petit truc qui va te permettre de recommencer la partie suivante mais avec un petit bonus de départ.
Et qui est plus cool,
ça parce que FTL c'est va te faire voir.
C'est dans ton cul, oui.
Tu as bah, perdu.
Into the Bridge, c'est aussi un petit peu ça, mais je trouve que comme les parties sont plus courtes, c'est un peu moins frustrant. Et dans ce jeu là, tu as plusieurs squads de robots. Comme je dis, il y a toujours un trio. Mais les mecs ont pensé, il y a 8 trios qui sont pensés pour fonctionner ensemble. Donc j'avais parlé de l'équipe où tu pouvais repositionner les ennemis pour qu'ils s'attaquent entre eux. Eux, ils ont un petit bonus pour quand les ennemis s'attaquent entre eux, ils s'affligent des points de dégâts supplémentaires. Et dans l'équipe, tu as un mec qui va téléporter des unités et un autre qui va les prendre et les balancer derrière lui. Donc en fait, ils sont vraiment faits pour fonctionner en symbiose et te permettre justement de bouger, de faire un maximum de crowd control, de bouger un maximum de mecs sur la carte pour les placer à des endroits où ils seront inoffensifs, voire pour les faire en sorte qu'ils s'attaquent entre eux. T'as une autre équipe qui est l'équipe Blitzkrieg, où t'as un des personnages qui a une chaîne électrique, et en fait dès qu'il y a des ennemis ou des bâtiments à côté, la chaîne elle continue. Et le truc c'est que les deux autres membres de l'équipe ont des capacités qui permettent de déplacer les ennemis, ce qui permet par exemple de déplacer les ennemis sur la carte comme tu veux pour qu'ils soient tous enchaînés par l'éclat.
Ah oui, d'accord. Donc tu as des super bonus de type j'envoie un truc dans la gueule du mec, il se le prend en pleine face, ça me revient dans les mains et je me fais pas toucher.
Tu peux avoir ce genre de choses. Ouais,
putain, ça envoie.
Ils ont vraiment bien pensé leurs équipes. Je les trouve pas toutes réussies. J'ai pas trop aimé celle orientée sur la glace. Enfin, j'ai pas accroché. T'en as une qui est basée sur le feu, où en gros, t'as deux des robots qui crament et le troisième, il inflige des dégâts quand les mecs sont en feu. C'est jouissif parce que tu finis avec la carte en feu. Toi, le feu ne te fait rien contrairement à tous les autres mécas du jeu et les ennemis douillent.
Ça a l'air bien. Du coup, Into the Breach, disponible sur Switch, sur eShop, 15€. Une recommandation, il a le label le Antix Quality Seal.
Ah, clairement, et puis c'est un super tactical. Après, j'y ai joué une vingtaine d'heures, j'y ai joué une vingtaine d'heures pendant 2 semaines. Il m'est tombé des mains, mais je pense que comme tous les roguelites, au bout d'un moment, tu dis bon, bah, je me suis à peu près amusé, là je m'amuse plus, j'arrête. Mais sincèrement, ça m'a coûté, j'ai payé 15 balles.
Oui, mais là, c'est bien le problème que j'ai avec les roguelites, et c'est pour ça que Flint Hook, j'ai fini par le revendre parce que j'en pouvais plus. C'est que, au bout d'un moment, ça est ultra répétitif, donc effectivement, tu vas t'amuser dessus pendant un certain temps, tu vas peut-être arriver à le finir, et encore, je suis même pas sûr, du coup, tu l'as pas fini. T'as réussi à finir la mission finale?
Alors, la mission finale est pas très dure, en fait, c'est très simple de finir un run, tu fais 2 îles, et la mission finale est largement abordable. Le jeu est quand même fait pour que tu le finisses assez facilement. Mais du coup, si tu veux tenter de le faire avec 4 îles dans le mode difficulté le plus élevé, ouais, là, ça prend du temps. Mais si tu veux, à ma première partie, j'ai commencé en facile. Je conseille d'ailleurs de commencer comme ça, histoire d'avoir un droit à aller, d'être, que le jeu soit un peu plus permissif et de mieux appréhender les mécaniques et le fonctionnement. Première partie, j'ai fait les 4 îles, j'ai réussi, quoi.
Ah oui, d'accord, en facile, c'est abordable, quoi.
Bah, du coup, la partie d'après, j'ai fait directement normal, parce que c'est devenu plus intéressant pour moi, quoi.
Oui, mais d'accord, mais après, t'as aussi l'habitude du tactical, donc t'es pas un joueur totalement débutant dans le domaine, et
il y a
tout un tas de mécaniques qui te parlent, et...
Oh, ça, si vous avez joué à Advance Wars ou à Fire Emblem, en vrai, le gros des mécaniques va vous parler, il y a des logiques qui sont propres au jeu, notamment le fait qu'attaquer un ennemi, le fait qu'il va se déplacer, enfin, le fait que ça peut le déplacer, c'est pas valable pour toutes les attaques, mais l'idée est la même, c'est des personnages, tu les déplaces sur des cases. Et il y a toute une gestion de la position qui est super importante parce que positionner un mecha de telle façon, ça peut bloquer une attaque ennemie ou ça peut lui permettre de réceptionner un ennemi qui a été bougé ou ce genre de choses.
D'accord, ok. Bon, donc Into the Bridge sur eShop, 15 balles.
Très malin.
Antix Seal of Quality.
Ouais, et très bon portage aussi. Ils ont corrigé le seul vrai défaut du jeu sur la version Switch qui était que le lancement prenait 5... T'avais... au bas mot 30 secondes d'écran noir. Je crois que le jeu avait planté la première fois. Ils l'ont corrigé par la suite. Mais voilà. Si vous aimez les tactiques et que vous avez envie d'un petit truc un peu similaire à Advance Wars, c'est plus proche d'Advance Wars que d'un Fire Emblem d'ailleurs, je vous conseille.
Il y a, il y a un patch Day One à 50 Go pour corriger.
Non, le jeu est super léger.
Pour corriger les bugs.
Et la bande son est super chouette. C'est le même mec qui a fait FTL, donc c'est des musiques d'ambiance très reposantes et qui sont du coup. On parlait des musiques lofi tout à l'heure. C'est à mon avis un petit peu dans cet esprit, dans le sens où c'est quand même un jeu où il faut prendre le temps de se concentrer, de réfléchir. Et les musiques sont là pour ça, elles sont discrètes, elles prennent pas la tête quoi.
Ce qui est quand même une très bonne chose. Attention Antix, jingle Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z, 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 le
voilà,
genre...
On va s'arrêter là, voilà, merci beaucoup.
J'ai vomi.
Très très bien. Ah oui, tiens, il y a eu de nouveau un vomi, voilà, c'est très bien.
Tu veux que je fasse le générique japonais aussi?
Non, c'est... Ah, alors oui, aller, oui, oui, ça je veux bien.
Dragon Ball Z.
Danikamo, je parle en japonais pour rien dire. Je sais pas ce que je chante.
C'est le Tomotonio.
Donc on va juste glisser un tout petit mot, mais assez rapide, je pense, parce que finalement on a pas forcément beaucoup de choses à en dire.
Est-ce qu'on a plus de choses à dire que ce qu'on avait déjà dit pendant l'émission spéciale jeu de l'E3?
Pas tant que ça en fait, mais bon, le jeu est sorti.
J'ai un truc à dire.
Dragon Ball FighterZ. Moi j'ai. Alors vas-y. Alors commence, mec-ton.
Il y a quelque chose à nous dire.
Va baiser ta mère.
Voilà. Je crois qu'il y en a un qui s'est fait boutrer en live.
C'était sa première.
C'était ma première fois, du coup ça fait un petit peu
non,
mal.
Non, il avait joué contre moi à l'événement post-3.
Ouais, non, mais j'étais pas échauffé, j'étais pas... Voilà.
Le terrain était lourd.
La manette... Ouais, non, mais je comprends.
D'ailleurs, l'arbitre était invendu.
J'étais fatigué. Il y avait une photo de Julien Chiez au-dessus de la télé. Un jour, je ferai ça, je sais pas si vous connaissez les mecs qui font des portraits, qui reprennent des portraits de la guerre de sécession ou des portraits de grands généraux et qui mettent à la place des mecs, la tête de Tom Selleck ou Bill Murray ou des trucs comme ça. Je vais faire ça, mec, Julien Chiez.
On va finir par l'appeler le Julien Siascast, cet épisode.
On va, en fait, je pense, pour couvrir les frais inexistants du dojo, on va lancer une boutique à l'effigie du Julien Chiez.
Il y aurait tellement de potentiel.
Et putain, c'est pas con.
Est-ce qu'on l'appellerait pas la boutique du dojo Startup Disruptive Incoming?
Ah oui.
Ouais, mais faut qu'elle ait blockchain quelque part.
On est mal barré. Dragon Ball FighterZ, alors voilà, 6-0, très bien.
Ouais. Non.
Après, sur la dernière, sur les deux dernières, tu faisais quand même un peu moins le malin.
Hein. Je me rappelle
fabuleux Sangohan qui a fait un magnifique Kamea totalement dans le vent et que j'étais juste derrière et que je t'ai déboîté.
Voilà. Non mais voilà, c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est la courbe de progression. On apprend très vite et systématiquement à un moment on finira par tomber sur quelqu'un qui va nous rooster. Et du coup on apprend encore et voilà, il y a toujours un truc à découvrir. C'est l'impression que j'ai en ce moment.
C'est l'impression que j'ai aussi, en fait, il y a vraiment une... C'est-à-dire que de base, tu comprends assez vite comment fonctionnent les coups, parce que ils sont assez simples, ce qu'on avait dit, hein. Finalement, t'as coup moyen, enfin faible, moyen, fort, les Kamehameha, et puis après, t'as 2-3 charges, une espèce de projection, en fait, qui est sur R, et voilà.
C'est un truc automatique aussi, en spammant le bouton de coup faible, hein, qui est assez cool aussi.
Voilà, t'as plein de trucs assez automatiques.
Chose qu'après, tu peux mixer, justement.
Et justement, voilà, après tu commences à faire des mélanges. Tu comprends aussi assez vite que quand t'es pris dans un combo, ça sert à rien d'essayer de lutter. De toute façon, t'es pris dans un combo, faut attendre qu'il se termine.
Et il y a un truc.
Du coup, il y a peut-être un truc. Parce que moi, jusqu'à présent, j'étais là, genre, ok, je peux pas me protéger, donc de toute façon, j'ai commencé à le prendre, je l'encaisse, quoi.
T'as le machin Spark, non?
Oui, il y a ça, oui. Il y a ça, et oui. Les deux gâchettes de droite, mental.
Alors, moi, j'ai deux autres trucs à dire. Je trouve que le menu est toujours aussi atroce.
Ouais, bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça donne un petit peu de vie dans le.
Attends, t'as vu la quantité de boutons qu'il y a pour accéder à des bouts de menu? Il m'a fallu combien de temps pour arriver à trouver comment passer du mode simplifié au mode normal?
Ça, c'était relou, c'est vrai.
Attends, mais le menu, c'est pas une espèce de planète arène avec des bonhommes qui se déplacent?
C'est ça. Mais là, on parlait vraiment de...
Ah non, horrible, j'ai des flashbacks.
Mais c'est ignoble. Le menu, rien que ignoblissime, quoi.
Pour lancer une partie multijoueur... J'ai rien compris, je me suis retrouvé avec 3 mecs dans la même partie, Ah putain. Non, pas de titre, s'il vous plaît. Mais clairement, il y avait un vieux. Il y avait un vieux lobby, genre tu fais multijoueur, tu te retrouves dans un simili niveau 2D Yoshi.
Mais c'est ça, mais c'est dégueulasse. Et ensuite derrière, t'es obligé d'aller trouver des mecs. On a mis combien de temps? Mec, on s'est cherché pendant quoi? On s'est cherché pendant un bon quart d'heure.
Et bah, on n'était pas dans le même hall, on était.
Mais putain, j'étais dans France 1, hall 1. Je vois pas ce
et finalement, ça n'a aucun intérêt puisque quand tu appuies sur un bouton, tu as un menu textuel.
T'arrives sur un menu textuel qui marche très bien.
Ça me rend fou, genre pourquoi ils ont fait ça? Alors je veux bien les petits chibis, c'est mignon.
C'est pour la boutique.
Non mais moi ça, mais je,
faut pas déconner.
Moi les trucs comme ça où finalement les mecs se rendent compte au milieu que en fait c'était peut-être pas une si bonne idée et ils disent appuyer sur ZL pour avoir un menu, moi ça me tue quoi. C'est moi, le genre de truc qui me casse les couilles.
Ça me fait penser à la ville du premier No More Heroes et finalement dans le
c'est ça. De venir ils ont mis un menu. Ouais. Mais on est exactement là-dedans.
Bon, ce jeu donc, a un défaut.
Oui.
Le DLC.
Ah ça je sais.
Moi j'aurais dit les musiques.
Bah justement les vraies musiques sont en DLC.
Moi je préfère Naruto.
Les musiques de l'anime sont en DLC, en bonus ah avec 8 persos, mais ça on s'en fout.
En bonus avec 8 persos, c'est pas dans le sens que ça non, marche.
C'est de, bah, non, alors par contre, moi j'ai quand même. Enfin, j'ai un autre. Le menu est atroce. Il y a un truc très bien, le netcode est super clean, c'est-à-dire que quand on a joué, on le sent quasiment pas qu'il y a de la latence, ça fait super plaisir.
Yes. Alors je pense que la nature. Ils ont un bon niveau de ce côté-là, hein,
ouais, non, clairement, les mecs sont bons, et en plus, le côté, finalement, la façon dont le jeu enchaîne visuellement et dont la façon dont le jeu fonctionne lui-même, patate. Ça aide beaucoup ça. Ouais. Parce qu'effectivement, t'en prends plein les yeux tout le temps, donc tu te préoccupes pas forcément trop du fait qu'il y a peut-être un peu de latence ou je sais pas quoi, ça.
Bah après,
ah, ça c'est bien.
On joue en casu, donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus une exigence morte. Enfin, faut pas que ce soit à la frame près, quoi.
Non, mais là, le jeu n'est pas forcément. J'ai pas l'impression que le jeu soit exigeant à la frame près, en tout cas à notre niveau.
Non,
après,
voilà.
Voilà. Par contre, il y a quand même un truc. Je trouve que sur la sélection de perso, il y en a deux ou trois qui sont un peu discutables. J'ai déjà affronté des Broly en ligne.
Il est en DLC, cet enfoiré.
Ah putain, mais alors tu te fais rouler dessus par Broly, c'est quand même chaud patate.
Mais à ce point-là, genre vraiment, il est super fort.
Bah, moi je me fais globalement relativement rouler dessus, hein, mais ça c'est une sorte de principe. Mais non, j'ai affronté, parce qu'on s'est un peu tapé sur la gueule avec Mecton, mais c'était quand même plus pour le fun qu'autre chose.
Pour tester,
voilà. Voilà, et après j'ai fait des combats avec d'autres gens, et dès que je tombais sur un mec qui avait un Broly, je sais que, putain, le gars sortait Broly, moi je commençais à faire dans mon froc. Hein. Ça partait très 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 vite, et il fait très 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 mal. Après, je suis sûr qu'il y a moyen de le contrer, je pense que le truc est un peu équilibré, mais il est très surprenant parce que, bah, je sais pas, c'est un peu comme quand tu joues, quand tu te mets à jouer Sagat sur Street Fighter 2 et que tu te rends compte qu'en fait il tape très très fort, il fait très très mal et ta barre de vie elle part très très vite.
Ouais, j'adore.
Il peut se contrer, c'est évident, mais le premier coup, tu t'encaisses 3 coups, t'as perdu une moitié de barre de vie, tu fais oh putain la vache, ça va vite.
D'ailleurs, je sais pas ce qu'a donné le dernier patch, mais Broly faisait pas partie des personnages les plus forts. Parce que je crois que pendant l'Evo, les personnages les plus joués, c'était Bardak, donc le père de Goku.
Mm-hmm.
Cell, et il me semble qu'il y avait Petit Bou et Vegeta dans les personnages
Cell,
les plus joués.
Cell, je le trouve injouable, moi. Mais
moi aussi, j'ai jamais compris pourquoi c'était un des meilleurs persos à l'époque, mais apparemment si.
Enfin, après, je sais pas s'il y a eu... Il y a peut-être eu du rééquilibrage, mais je sais que Broly, à chaque fois que je suis tombé sur un mec qui avait du Broly...
Il est surprenant.
Ouais, c'est... Voilà, moi je sais que je faisais pas le malin.
C'est peut-être le côté, c'est un grand perso aussi, généralement.
Il y a peut-être un peu de ça, ouais. C'est-à-dire qu'il est très imposant à l'écran, du coup, t'as pas les mêmes notions de distance et de recul et de choses comme ça, et t'as l'impression qu'il a une portée de ouf, alors qu'en réalité, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais comme il est très imposant, c'est pas évident. Mais c'est... J'ai presque envie de dire que c'est un grand classique dans ce genre de jeu-là, où effectivement, le fait d'avoir un personnage imposant, même s'il fait pas grand-chose... ça marche bien. Je sais que je joue Honda ou Zangief, moi d'habitude sur Street Fighter, et je sais que les mecs en face qui jouent des personnages plus petits ou qui sont peut-être un peu moins mobiles, ils ont tendance à flipper un peu, alors qu'au final Zangief ça se contre assez facilement aussi en étant un petit peu malin.
Bah déjà Zangief t'es pas au corps à corps parce que c'est là où il gagne, donc
tu restes à distance tranquille et puis ça se passe bien.
Et puis tu spams des Hadouken, hein.
Parce que, enfin, tu te méfies parce que globalement, avec un petit coup avec un petit lariat, le Dokken il fera pas grand chose. Hein.
C'est vrai.
Et oui, donc le contre du contre du contre.
Et ouais, c'est bien équilibré ce jeu. Hein.
Mais complètement, Street Fighter 2 donc. Non mais
beaucoup moins accessible que DBZ pour le coup.
Mais DBZ super accessible, super joli, vraiment fun. On n'aura pas grand chose à en dire de plus. Je voulais juste en glisser deux mots parce qu'effectivement, le jeu est sorti, on l'a acheté, c'est bien. On s'est bien amusé dessus.
Ouais, très.
Je pense que c'est pareil, on peut le recommander. Alors faut aimer le jeu de baston quand même, ou faut aimer l'univers de DBZ. J'en connais qui n'aiment pas l'univers de DBZ et qui voilà. Et qui on n'arrive pas à rentrer dedans, et je peux comprendre aussi que ça rebute certains.
Ouais. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste quand même un super jeu de baston avec une partie visuelle qui est incroyable.
La partie visuelle est vraiment, oui, totalement incroyable là-dessus.
Très très sympa. Bah, on en avait parlé tout ça, tout à fait. Là, mais au niveau des feedbacks,
c'est fou furieux. Donc, on vous invite à réécouter le podcast.
Mais si vous vous posez la question, le plus simple reste encore d'aller regarder une vidéo et puis vous comprendrez. Hein.
Ouais,
pour la partie visuelle, je parle.
Complètement, pour la partie visuelle, c'est vraiment comme ça en jeu. C'est pas une cinématique. Moi, au départ, je m'étais dit, non, c'est beaucoup de... Non, c'est vraiment comme ça que c'est foutu, et c'est quand même très très bien fait. Nous allons marquer une seconde pause musicale avant d'attaquer la toute dernière partie. Et tiens, j'ai oublié de changer le titre. Attends, je change le titre. Je change le titre là. Hop, voilà, deux titres d'un coup. Paf. Et nous allons nous écouter toujours du Lofi, toujours sur le même album, donc Mikael and Game Shops, sur l'album Zelda and Chill, c'est toujours du Lofi, et c'est Gerudo Valley. Voilà, c'est bien là,
nice. Valley
Gerudo.
Yes. Alors,
je sais pas si vous connaissez cette partie de Zelda, Ocarina of Time.
Voilà, donc la Valley Gerudo, qui était une musique qui était déjà très 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 bien dans Ocarina of Time, et que là en version jazz, smooth, hip-hop, machin, ça marche pas mal du tout.
Envoyez les gitans.
Voilà, et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tout
Alors c'est plus du tout ça le jingle, hein. Mais bon, c'est pas grave. On va glisser un dernier petit mot avant de se quitter sur Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country.
T'es bien, c'est bonne soirée.
C'est bien, bonne soirée.
C'est mieux que je passe, bonne soirée.
Un des petits mots. Hein.
Donc, l'extension, le DLC Extension Season Pass, machin, si t'as acheté Xenoblade Chronicles 2, le jeu d'origine, et que donc tu peux l'avoir sur ta console, tout ça, que tu le télécharges, ou l'extension physique. Ah putain, alors ça, c'est un de mes kinks, tu vois, l'extension physique, enfin, je sais pas, le standalone du truc. Oui, il y a une best waifu, arrête Galaxy. Donc, alors, rapidement, ça raconte l'histoire de ce qui s'est passé sur Torna, qu'on entreaperçoit dans Xenoblade Chronicles 2.
On en parle en sachant justement qu'elle a été détruite.
Et on te file aussi plein de petites indications sur pendant le Xenoblade 2, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages en fait qui viennent de Torna ou qui ont vécu à Torna.
Et qu'on le somme.
Et qu'on grave le somme parce que ça s'est très 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 mal passé.
D'ailleurs, et donc, on voit ce que ça a donné dans le 2 à un moment, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais, et donc là, on vraiment, le truc se focalise sur l'histoire de Torna en elle-même. Et je trouve que d'emblée, le jeu est bien plus... Alors déjà, techniquement, le truc est un tout petit peu plus maîtrisé.
Je suis d'accord, ouais.
Peut-être aussi parce que le jeu est plus restreint et qu'il y a eu pas mal de patchs d'amélioration depuis aussi.
Oui, mais même en mode portable, le Xenoblade Chronicles 2, c'était quand même la fête à la bouillie de pixels.
Oui.
Là, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et en mode... Je suis désolé, en mode portable, le Xenoblade Chronicles 2, malgré les patchs, c'est toujours la bouillie de pixels.
Là, je sais pas, je l'ai pas relancé depuis que je l'ai fini.
Bah, moi, je l'ai relancé juste pour voir. Il y a des endroits où c'est vraiment atroce et je pense qu'on est en dessous des 480p. Hein. C'est vraiment... la bouillie, t'as l'impression qu'il y a un mec qui a vomi sur l'écran et qui ensuite a étalé avec sa main comme ça. Donc c'est très voilà. Alors que là, que ce soit en mode portable ou en mode télé, le truc est quand même beaucoup plus clean. Alors je sais pas si c'est parce que les ondes sont plus petites.
Bah oui et non. Parce que est-ce qu'on spoil légèrement ou pas?
Ah tu peux un petit peu, je pense que.
Voilà,
pas trop.
On retrouve certains titans qu'on croisait déjà dans le jeu de base. Donc du coup en mode il y a 500 ans.
Et du coup, il y a Torna et il y a le.
Il y a Gormot. Au minimum, il y a Gormot. Voilà, avec un thème musical un peu revisité. Et du coup, pour moi, alors j'ai pas encore parcouru la totalité du truc, mais l'étendue de la map sur ce titan est à peu près aussi grande que celle du jeu de base. Avec des trucs en moins, par contre, ça c'est vrai.
Qui était pas très grand non plus dans le jeu de base. Hein.
Oui, qui était pas fou non plus par rapport à un Xenoblade Chronicles où t'as vraiment l'impression que le jeu X, continue.
Ouais, oui. Ouais, non, le X c'était un peu autre chose, c'était un peu différent.
Le X c'était quand même la folie, quoi. Enfin, le truc est impressionnant pour ça parce qu'effectivement c'était un seul monde presque cohérent. Séparé en zone, mais voilà. Ah bon, Xenoblade 2 Torna, qu'on appellera Xeno 2 Torna.
Torna tout court, allez, fais-toi plaisir.
Torna tout court, donc l'aspect technique est plus propre, le système de combat est très largement simplifié, moi j'aurais dit, c'était beaucoup plus accessible et beaucoup plus abordable. Il m'a fallu quand même, enfin il m'a fallu pas mal de backseaters sur Twitch pour arriver à faire quelque chose sur Xenoblade Chronicles 2. Une fois que j'ai maîtrisé à peu près le système de combo, ça se passait bien. Mais je me suis fait driver, clairement driver, j'étais une lame et j'avais plein de pilotes pour arriver à m'en sortir au début parce que je trouve que c'est ultra touffu. Et il y a vraiment des trucs où je remercierai jamais assez certaines personnes qui m'avaient donné des astuces vraiment à la con en disant « Ah mais telle lame tu devrais l'équiper à tel endroit, tel pouvoir tu devrais le mettre à tel endroit, tu vas voir, c'est vachement plus rentable. » Et ça aide énormément d'avoir des gens qui te permettent de rentrer dans le jeu. Là je trouve que sur le 2, alors sur Torna, j'ai eu l'expérience du 2, certes, mais je trouve que de base, le système de combat est beaucoup plus simple.
Bah déjà, j'ai l'impression qu'ils ont retiré un truc de la version d'origine, c'est le fait que tu obtiens tes lames de façon aléatoire.
C'est ça.
Comme alors, dans FIFA Ultimate Team.
Oui, alors déjà t'as plus ça, parce qu'en fait je pense que les mecs se sont rendus compte que les lames pas rares, donc les lames un peu standards, celles de merde que tu trouves un peu dans tous les Crystal Core, tout le monde s'en bat les couilles. Au final, ma team de fin sur Xenoblade 2, j'avais que des lames rares que j'ai ramassées au fur et à mesure. Alors effectivement, j'avais les lames qui m'étaient imposées.
Par le scénar, ouais.
Dans le scénar, parce que si t'as pas Pyra Mitra, c'est quand même très compliqué. T'as quelques lames où j'ai hésité en me disant, bah, par exemple Catalyst, pour pas spoiler.
Ok.
J'ai hésité à la prendre, enfin voilà, comme tu c'est une lame très puissante, mais si tu t'en passes, bah c'est quand même pas inintéressant non plus, parce que t'as d'autres bonus, on va dire. Donc c'est quand même assez compliqué, mais là c'est simple, de toute façon, t'as que des lames imposées, et qui sont que des lames rares, et puis voilà, pointerait, et tu te poses pas
du
de questions.
Voilà, t'as un peu moins de possibilités de customisation, mais ça va droit au but.
Bah surtout, ça fait que ton équipe est équilibrée en termes d'éléments et d'armes dès le début, quoi.
Ouais.
Oui, tu te retrouves pas avec le phénomène de « Ah bah oui, mais en fait, il m'en faudrait un devant, donc oui. Tu vas ouvrir 50 cœurs cristal pour en avoir un devant, pour aller faire ça, et... »
Et d'ailleurs, voilà. T'as accès à un combo de pilote dès le début.
Oui, tout à fait. T'as une autre petite nouveauté, alors je trouve ça très drôle la façon dont c'est inscrit, c'est-à-dire à un moment tu croises un personnage qui te fait genre c'est super original ce que vous faites là où la lame va filer son arme au driver machin, et en fait la meuf elle dit ouais non mais en fait si la lame me file son arme c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter deux épées quoi. en fait le truc est super malin parce que c'est vraiment voilà, dis, ah, c'est super original comme stratégie, mais en fait non c'est juste on n'a pas de thunes gars. Et je trouvais ça drôle. Il y a une espèce d'autodérision dans Torna aussi. Je trouve que dans certains dialogues, c'est un peu plus léger, on va dire.
Alors, léger dans le... Ouais, dans certaines scènes, mais le fond du scénar, justement, j'ai adoré cette ambiance. Cette ambiance où on sait que ça ne peut que mal terminer, quoi.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu comme Titanic, tu connais déjà la fin, tu sais que tout le monde va couler, donc t'as un côté un peu tragique au fait qu'on te fait t'attacher à des personnages.
Suicide,
voilà, donc tu sais que de toute façon ils vont crever.
Ah bah, surtout, tu sais, alors surtout c'est important de le signaler, mais le DLC est évidemment à faire après avoir bien avancé dans le jeu, voire l'avoir fini, puisqu'il va dévoiler des relations entre personnages qui sont,
clairement,
qui sont des twists dans le jeu de base.
Dans le méchant en plus.
Bah, le méchant, oui, en plus.
Alors lequel? Parce que moi j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait deux méchants dans le... Mais bon, c'est parce que je suis trop con, je pense.
Enfin, c'est ça, mais globalement, les twists que tu vas avoir vers la fin du jeu, tu les connais déjà. Enfin, je pense qu'ils sont déjà dévoilés dans
Des twists,
dans Torna, quoi.
On parle... Alors, je bouchez-vous les oreilles, hein, bouchez-vous les oreilles 20 secondes, les gens. On parle bien des trucs qui étaient prévisibles et que tu voyais venir à 50 km
oui,
dans le jeu de base.
Oui, je sais. Mais à partir du moment où tu rencontres ce personnage-là, tu sais qu'à la fin, tu devras le combattre, mais...
Mais parce que c'est un méchant. Je suis désolé,
parce
il a une attitude de méchant.
Et puis c'est tout.
Mais il n'est pas pédophile au moins.
Oh ça, t'en sais rien.
Est-ce que vous avez vu ce que pense le pape de l'avortement aujourd'hui?
Stop, pas de polémique.
Non. Il a dit que les seins de Mitra, quand même, ils devaient être rétrécis. Hein. Alors,
ils ont pas été rétrécis, ils ont été rétrécis.
Oui, mais ils auraient dû.
Tu te fous de ma gueule? Non, mais voilà, je me disais aussi, elle a toujours une personnalité intéressante, donc...
Et très développée.
Et très développée.
Ah ouais, mais un petit caractère différent, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Ce qui est un peu surprenant d'ailleurs au départ.
Est-ce qu'elle est toujours aussi attachante?
Oh non.
Pas vraiment.
Ouais, non. Stop, les gars, il y a des limites à pas dépasser. Je pense qu'on va se faire battre de Twitch là.
Non, mais il y a quand même la doubleuse de Mitra est toujours aussi énorme. Enfin, la comédienne de doublage, par contre, qui fait Mitra, a toujours une voix que je trouve.
Tu l'as fait en anglais aussi?
Ah, bon, je l'ai fait en anglais aussi.
Ouais, la même. Le doublage est excellent.
Le doublage est vraiment excellent en anglais. Et je pense qu'en japonais, il est très bien, mais voilà, j'ai un peu la flemme.
Ça dépend de ton taux de de
Nani.
De Nani, voilà.
À quel point tu supportes des gens qui crient en japonais hein.
Moi, fondamentalement, ça me dérange pas beaucoup. Hein, donc, je trouve ça très tant que les comédiens de doublage y mettent un petit peu du cœur et que t'as pas l'impression que les gars sont juste en train de lire un truc. Enfin, voilà.
Ouais, non, là, c'est vraiment cool.
C'est vraiment le doublage est toujours cool et là-dessus, il y a toujours un gros boulot et ça marche toujours très bien, même si la synchro labiale est absolument catastrophique.
Oh, mais ça, c'est les deux langues. Hein.
Oui, mais ça, bon, de toute façon, c'était prévisible.
On attend la VF, d'ailleurs.
Où tous les personnages s'appelleront Jean-Michel, Jean-Luc, Bernard.
Et où les méchants auront des accents marseillais.
Oh oui.
Comme dans Binary Domain, je vous conseille d'aller regarder ça.
Mais comme dans Mickey Larson. Comme dans Mickey Larson. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort.
Ah, mon petit Rex, j'étais encore riche.
Ah, il fait moins le malin, le mammouth. Donc, bref, on est quand même dans du... Voilà, par l'école de couteaux de cuisine, je vais couper vos jarrets. Stop. Pitié.
C'était un peu l'émission Retro Trip Club Dorothée. Hein.
Non, mais un petit peu, ouais. Le système de combat a bien évolué. Alors, quand j'ai dit qu'il était simplifié, on n'a pas trop détaillé, mais c'est vrai qu'il a bien évolué. C'est-à-dire, globalement, t'as une espèce d'avant-garde et une espèce d'arrière-garde. En gros, c'est-à-dire que il n'y a plus vraiment un driver et ses blades. Enfin, c'est toujours un driver et ses blades, mais c'est un petit peu différent parce que finalement, on peut combattre directement avec les lames. C'est pas comme dans Xenoblade 1 où en fait, le fait de changer de lame te faisait changer d'élément, te permettait de changer
d'art,
d'art. Donc effectivement, les attaques spéciales changeaient. Mais globalement, tu te retrouvais dans un système un tout petit peu différent dans lequel bah, là, tu peux en fait... T'as vraiment le pilote qui est devant et les lames qui sont derrière avec des arts de soutien que tu ne maîtrises pas. Et tu peux intervertir, c'est-à-dire tout d'un coup, pouf, il y a une lame qui passe devant, qui va donner des coups. Et à ce moment-là, c'est le pilote et les autres lames qui ont des arts de soutien que tu ne maîtrises pas.
Mais est-ce que le fait de jouer avec les lames directement, ça change fondamentalement le système de combat ou...
Pas vraiment.
L'input, tu changes juste de perso, quoi.
Non, les inputs, c'est vraiment comme si tu changeais d'arme, sauf que bah, comme tu changes de perso, c'est beaucoup plus facile à visualiser.
Ouais, et il y a une histoire de la barre de vie qui est commune à ton pilote et ta lame. En gros, quand ton pilote prend des dégâts, t'as une zone de PV que tu peux recouvrir si tu swaps de lame.
Ouais, c'est ce que j'avais vu dans le trailer japonais.
Exactement comme Dragon Ball Fighters où effectivement, si tu alternes de personnage, le mec prend des coups et en fait, sa barre, elle est rouge quand il prend des coups, puis elle est bleue. Et en fait, si tu changes de personnage, tu peux le laisser récupérer et il peut revenir dans tout le bleu. Et là, ça fonctionne exactement de la même manière. Et c'est pas inintéressant non plus. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, clairement. Les mecs, ils ont pas bouleversé totalement leur système de jeu parce que globalement, il marchait plutôt bien. Mais c'est pas désagréable d'avoir un indicateur visuel supplémentaire. Moi, je sais que j'ai eu un mal fou sur le premier, à m'habituer au timing de certaines,
pour les
certaines armes, pour les feintes et tout, et c'était, enfin, je trouve que ça aidait pas. Là, le fait de te dire finalement, j'avais Micheline, j'appuie sur un bouton, tac, c'est Jean-Michel qui passe devant, et en fait, lui, il a une épée, et tu connais le timing de l'épée, et en fait, bah ouais, voilà, c'est beaucoup plus naturel, et ça fonctionne plutôt bien. Et en plus, ça te permet d'avoir effectivement des arts spéciaux et sur les pilotes et sur les lames.
Oui, les signatures. Oui.
Exactement. Et oui, t'as un art spécial de l'équipe, qui est un art signature, qui te permet d'avoir des bonus de bâtard, mais à côté de ça, t'as des malus de connard. Et ça, c'est cool.
Enfin, le genre antique, c'est péter ses PV par deux, mais avoir en contrepartie la totalité de ses arts rechargés.
Ça, c'est bien.
Mais voilà, voilà,
j'aime beaucoup ce genre de gros risque, grosse récompense.
C'est ça, t'as une espèce de trade-off, t'as un machin où tu fais deux fois plus de dégâts, mais tu peux plus te soigner. Donc c'est chaud patate. Et j'aime bien effectivement des systèmes dans lesquels t'as du risque-récompense. C'est toujours beaucoup plus intéressant, je trouve, dans un jeu quand t'as du risque-récompense et que t'as vraiment du... Tu peux te dire, plus je prends de risques, plus effectivement la récompense est grande. Donc j'ai des chances de me bananer, mais voilà. Et je trouve que le système de combat, celui de Xenoblade 2 marchait bien, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il marchait bien. Je trouve que celui-là est plus simple, finalement.
Alors
plus
est-ce
réduit.
Que c'est pas parce que t'avais mangé mieux. Celui du 2 avant?
Potentiellement, mais je trouve que même dans l'absolu, c'est quand même beaucoup plus abordable. Le fait que tu dises finalement, je combats avec mon pilote, je me sens préoccupé, et ma lame, pendant ce temps-là, lance des arts de soutien, de type soin, de type buff, défense, machin, ouais. Buff, machin, c'est très naturel, c'est finalement, elle est en support, quoi. Donc ça marche bien. Et derrière, t'arrives et tu fais, ok, je swap, pouf, donc je change, c'est la lame qui passe devant, qui elle va taper, et là c'est ton pilote qui fait les arts de soutien, bah je sais pas, je trouve ça plus simple. C'est con, hein. Mais c'est beaucoup plus simple à comprendre.
Alors que c'est exactement la même chose.
C'est la même chose, mais c'est...
Dans l'input, ouais.
Dans l'input, ouais, mais dans le principe, ça
dans
me paraît...
Strat, ça change un
dans
peu.
La strat, ça change un peu aussi. Tu vas pas faire tout à fait la même chose.
Ce que je trouve intéressant avec ce système aussi, c'est que... C'était peut-être un peu le truc que je regrettais, c'est qu'il s'était quand même bien craqué à faire des designs de lames assez... Parfois assez chiadés, assez intéressants. Bon, des fois, c'était ridicule. Mais du coup, comme tu contrôlais que le pilote... Finalement,
oui, tu voyais quasiment pas la lame.
Voilà, tu voyais pas la lame. La lame, elle était juste là, et derrière, à faire genre j'ai une espèce de lien qui nous unit.
Oui, voilà.
Et tu la voyais pendant les supers attaques.
Les
Uber,
ouais.
Voilà, mais ce qui fait que... Par contre, du coup, elles étaient pas trop mises en avant à part celle du scénario, c'est un petit peu dommage. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool, parce qu'en plus, bon là, pour le coup, c'est des lames qui sont assez importantes dans l'univers du jeu. Donc du coup, ça les remet un petit peu dans leur contexte, genre... On est aussi là, on est allié des humains et on est aussi présent sur le combat, on va être là pour combattre aussi directement.
Mais ça leur donne aussi le fait de leur donner un rôle plus prépondérant dans le combat, ça je trouve que ça donne plus de poids aux personnages eux-mêmes dans l'histoire.
Oui, oui, totalement. Hein.
Parce que les trucs d'origine, tout d'un coup, t'avais la lame qui faisait « Haha, on va déclencher ça, ça va être super !» Et en fait, c'est toi qui te casses le cul en tant que pilote depuis 10 minutes à taper sur le mec. Le fait que ta lame soit derrière, bah ok, elle va lancer des arts et des machins, des trucs, mais c'est quand même ton pilote qui les lance, les arts. Là, c'est vraiment la lame qui va directement faire des trucs. T'as beaucoup plus d'interactions pilote-lame, finalement, et je trouve ça plus cohérent dans le fonctionnement.
Et puis, en plus, du coup, les pilotes ont leur style vraiment particulier, qui est pas juste lié aux équipements de leur arme, de lame, c'est vraiment leur style de
Alors,
combat.
Alors, ça fait aussi que toute la phase... et je pense qu'on terminera là-dessus parce que je suis pas certain qu'on puisse beaucoup approfondir beaucoup plus
Attends,
que ça.
Je parlerai juste des trucs de ouf qu'ils ont rajoutés, mais
oui,
ça te fait rire.
Pas de problème. Voilà, moi c'est la dernière que j'aurai. Ça fait que toute la partie gestion d'inventaire, de menu, d'art et de machin est quand même ultra simplifiée.
Alors c'était
et
l'enfer.
Putain, ça fait du bien. Ah ouais, non, c'était vraiment l'enfer. Mais alors que là, c'est super simple finalement. T'as des arts d'attaque, des arts de soutien. T'as des armes, bah, finalement les pilotes et les lames ont des armes, point. Tu te poses pas la question de.
Pas besoin de raffiner les cœurs.
Mais voilà. ça, les
pas
problèmes
besoin de raffiner les cœurs, enfin, c'est quand même un million de fois plus simple.
Mais surtout, les problèmes d'inventaire, c'est un truc qui pour moi est problématique depuis le premier épisode de Xenoblade. C'est que à chaque fois, t'as un milliard de trucs à gérer. Et là, tu me dis c'est simplifié, je me dis c'est vraiment cool. Et du coup, j'en suis presque à espérer que là, ils sont en train d'explorer une piste pour un prochain jeu, voire un prochain Xenoblade. Et qui partiront plutôt de cette base de petite équipe un peu plus restreinte et de gestion simplifiée que de partir sur les trucs de Xenoblade X où tu avais un milliard de choses à équiper et à créer et du coup en fait ça te dégoûtait du jeu dès que tu voulais aller un petit peu plus loin que battre le boss final quoi.
Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est le genre de truc moi qui me sort du jeu, le fait de passer 10 ans dans les menus, c'est vraiment, t'as vraiment du menuing, mais du vrai menuing, c'est-à-dire que t'es vraiment obligé d'aller optimiser de temps en temps tes menus pour pas y passer 4 heures. Là c'est quand même ultra simple quoi, c'est vraiment tu prends un pilote, bah il a une arme, tu l'améliores, point, enfin t'as pas à réfléchir, t'as deux types d'art,
c'est un bon pilote,
c'est un, oui voilà, en plus t'as deux types d'art, attaque, soutien, voilà, alors effectivement la différence c'est que les pilotes vont avoir des équipements alors que les lames vont avoir des cristaux, enfin des cœurs, des cristaux spéciaux. Les cristaux spéciaux t'es plus obligé de les raffiner, donc ça veut dire que tu le trouves, tu peux l'équiper tout de suite. Ah putain, on se fait quand même beaucoup moins chier, et donc je te dis, là, finalement, la différence essentielle entre un pilote et une lame, c'est qu'il y en a un qui a de l'équipement, et il y en a un qui a du... Il y en a un qui a du...
pilote qui a des gros boules,
des cœurs,
genre, c'est tout.
Enfin, des cœurs,
les lames du jeu.
Voilà, c'est ça. Il y en a un qui a des cristaux, et c'est tout. Et même ton arme, équiper une arme, l'arme, elle est dans le même menu que le reste de l'équipement. Voilà, problème réglé. Tu vas pas passer 5 menus pour arriver à tel endroit. Ça fait du bien. C'est vraiment agréable, et c'est en ça aussi que je trouve que c'est une simplification. C'est parce que ils ont peut-être finalement pas simplifié grand chose, mais ça donne vraiment l'impression d'un système beaucoup moins touffu dans lequel t'es pas en train de galérer comme un gros sac pour arriver à faire le moindre truc. Et ça, ça fait plaisir. Je laisse la parole à Mecton pour les 2-3 petites choses qui voulaient arriver avant
ouais,
de conclure.
Je vais aller très vite. Les points de collecte donc, étaient un peu infernal dans le jeu de base. Maintenant, on voit directement ce qu'on va looter. Si ça va être des légumes, du bois, ce genre de choses.
T'as une petite icône.
Donc très pratique quand on recherche un item en particulier. Alors le retour du sociogramme. Si vous avez fait le premier, je sais plus s'il y en avait dans le X.
Oui, il y en avait un.
Oui.
Y en avait un.
Donc là, il est apparent. En fait, il existait dans le 2 de base, mais il était planqué. C'est ce qui servait à développer les zones quand on discutait avec les gens ou qu'on commerçait. Donc là, on a clairement un menu dédié à ça. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ah oui, la possibilité d'activer des sauvegardes automatiques.
Merci beaucoup.
Voilà. Et le
ils ont joué à Octopath, hein, c'est obligé.
Attention, ouais. La feature oufissime, on peut revoir les tutos.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un costume maillot de bain
pour juste pour ça.
À la fois, on applaudit parce que c'est bien, et à la fois, on est triste parce que ça fait que Mecton va pas faire un article pour résumer l'intégralité des tutos et les décortiquer un peu plus, et ça, c'est dommage. Je rappelle que l'article de Mecton sur le système de combat de Xenoblade Chronicles 2 est l'article le plus vu sur le dojo cette année.
Et il était vachement pratique. Hein.
Et il était très bien parce que moi, de temps en temps, je m'y suis référé pour aller regarder en disant « Ah putain, il m'avait dit ça, mais en fait, ah mais oui, mais c'est ça !»
Oui, j'ai kiffé, il voilà. Y avait pas de notice, je l'ai faite.
Et donc, un dernier truc, me semble-t-il, quand tu appuies sur plus, ça met à pause, même pendant les combats.
Ah, pendant les combats, pardon. Ah oui, attends, j'ai encore peut-être pas débloqué l'enchaînement.
Alors, le nombre de fois où je me suis fait baiser à lancer des enchaînements, que je voulais juste mettre à pause, j'ai eu envie de tuer des bébés phoques.
Tiens, d'ailleurs, est-ce que...
Il me semble que là, ils l'ont viré. Je suis pas... la dernière, j'ai plus un moment, j'avais un enchaînement, j'appuie sur plus, et j'ai dit, ah tiens, ça fait pas d'enchaînement. Et en fait, c'est une autre touche, apparemment. Mais je suis pas sûr. Hein.
D'ailleurs, en parlant de touche plus, est-ce que l'inventaire a été changé de place?
Non,
Y ouvre la map.
Y ouvre la map, et du coup, qu'est-ce qu'ouvre l'inventaire? C'est moins, c'est ça?
Oui.
Putain, je sais plus, je passe par le menu... Oui, je sais plus, c'est un accès direct.
Ils ont pas remis sur les boutons de façade comme avant.
Je pense pas.
Ah, dommage.
Je suis pas sûr, hein, mais je pense pas. J'ai pas regardé si la carte était moins pourrie.
C'est globalement la même.
Donc pourrie.
Ouais.
Voilà.
Après, je m'y suis fait, je suis plus apte à juger. Mais...
Bon.
Le petit système de camp pour crafter.
Oui, c'est l'inspiration.
J'ai vu ça comme. Voilà, je chie sur Final Fantasy XV en montrant que j'ai fait un DLC plus réussi qu'un jeu qui a mis 10 ans à sortir. C'est cool.
Oui, surtout qu'en plus, le coup des petits camps, c'est rigolo parce que tu peux faire plein de petits trucs.
C'est le côté Dark Souls de Xenoblade.
Xenoblade.
Ça t'évite de repasser dans une ville en fait pour faire certains trucs. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs que tu peux faire sur place et en fait, toutes les merdes que tu ramasses. Ça te sert tout de suite, c'est-à-dire tu peux aller crafter un sandwich au saucisson directement dans ton feu de camp, ce qui est quand même drôlement agréable. Voilà.
Ouais, surtout qu'il me semble qu'il y a une des zones du jeu où il y a quasiment pas de village en fait. Enfin,
oui, tout à fait.
Il est pas censé en avoir dans le scénario du jeu.
Oui, non, mais donc en plus, c'est un peu obligatoire, mais du coup, c'est pas con cette histoire de feu de camp et ça marche plutôt bien. Voilà. On va se quitter là parce que je commence à être extrêmement fatigué et que j'ai encore du taf et que je me lève à 5h demain matin, donc ça va être vraiment la fête à mon cul.
Et
j'en ai marre d'entendre vos tronches et de lire ce chat pourri, voilà, comme ça on a fait tout le...
On va perdre des spectateurs.
Ah oui, mais je les emmerde, je me suis fait tout seul moi monsieur. Julien Chiez et mon inspiration.
J'ai quelque chose à vous dire.
Putain, vomir 3 fois dans la soirée, vous faites chier.
Voilà, donc on va se quitter sur ces bonnes paroles. J'avais une citation du jour, mais là ça m'a échappé.
Happy 22h22.
Happy, oui, voilà, pour les tard. Donc on va se quitter là-dessus. On vous fait des très 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 gros bisous. Et on
vous retrouve
dans...
Ah, on peut avoir l'info de fin de...
Oui, vas-y.
Alors, il y a des data miners qui ont trouvé que finalement, les ROM... NES.
Expulsez-les.
Les ROM NES du online n'étaient pas issus de sites Lego, mais d'Animal Crossing premier du nom, parce qu'apparemment, on pouvait jouer à des jeux NES dans Animal Crossing premier du nom.
Oui.
Et les ROM viennent de là.
Ah putain.
Voilà. Superbe.
Bon, et magnifique, merci voilà, Nintendo de nous faire retourner.
C'était l'info de la soirée.
Et du coup, est-ce qu'on aura le premier Animal Crossing avec les jeunesses?
Bah non, non, déjà... non. Ah bah non, et tu l'as non. Déjà plus sur je sais plus quelle réédition, il y a déjà plus les jeunesses. Bref.
Rouler jeunesse.
Putain, alors ce sera la citation.
Pas mal.
Gars, tu vas finir dans les citations du dojo. Parce que là, celle-là, elle est comme ça.
Tu pourras le marquer sur ton CV.
Tu pourras le marquer sur ton CV. Ah, j'ai deux citations au dojo. Drosgar en a une aussi, hein, je rappelle.
Yes.
Oui, il a le fabuleux... merde, Cyril Hanouna, il est drôle quand il est mort. Ce qui est particulièrement atroce. Bref, donc nous on se retrouve dans deux semaines, on vous fait des très très gros bisous. N'oubliez pas le podcast la semaine prochaine pour les gens qui nous écoutent pas en direct. Pour les gens qui nous écoutent pas en direct mais en podcast, n'oubliez pas qu'il y a le direct une semaine sur deux. Donc si vous avez envie de nous écouter en direct et de réagir en direct sur Twitch, sur Twitter, par mail, tout ça c'est disponible. On répond à peu près à tout. Voilà, on
vous fait par courrier, soyez pas cons.
Alors par pigeon voyageur, c'est possible. Alors par courrier, si, mais il faut que vous envoyez vos lettres à peu près le lundi.
Ouais. Donc, on a plus de Minitel, par contre.
Un Minitel, c'est compliqué. On peut faire du fax. Pour
mais
une réaction
mais
par
on, va lancer la, on va lancer la Minitel Business School.
Streamer sur le Minitel, gars, tellement de possibilités.
3615 chiaise. On nous donnera des citations, des citations disruptives.
C'est incroyable. Voilà, donc bisous, à dans deux semaines. Ciao tout le monde.
Ciao, bye bye.
Bisous.
Et pas la semaine où vous écoutez le podcast.
Voilà, pas celle-là.